C'est ma première assemblée comme président. Moi, je l'ai vécu vraiment avec beaucoup de joie. Chaque évêque était libre d'inviter qui il voulait de son diocèse. L'idée était d'introduire une petite dose de synodalité, donc il fallait tous les états de vie. Mais ce que ça a apporté, c'est que nous étions donc trois de chaque diocèse à entendre ce qu'on a entendu, ce qui a permis aussi qu'il y ait des échanges sur ce qu'on allait faire ensuite. Parce que nous, évêques, on a souvent reçu des apports extérieurs portés souvent par des laïcs sur toutes sortes de sujets. Mais le problème, c'est qu'après, quand on rentre chez nous, on est tout seul à porter ce qu'on a entendu. Et on a plus ou moins de temps, d'énergie, de capacité pour continuer à porter tel ou tel sujet. Tandis que là, on était soutenus, on se sent soutenus, et là, nous savons qu'en rentrant, il y a deux personnes qui ont entendu les mêmes choses que nous, qui ont vécu les mêmes choses que nous, et qui sont prêtes à nous aider pour introduire des changements nécessaires, pour mener les actions que nous avons imaginées.
Il a beaucoup été question, lors de cette assemblée, de bouleversement sur la question écologique. Vous avez écouté plusieurs laïcs qui ont présenté des projets ou des choix de vie radicaux. Comment leur expérience peut-elle résonner dans l'Église au sein des paroisses?
Des gens très différents nous ont vraiment confirmé qu'on est devant des échéances graves, sérieuses à différents points de vue qui vont nous obliger, qu'on le veuille ou non, à changer de mode de vie. Il me semble que précisément, nous chrétiens, nous pouvons faire face à ces changements du monde, à ces bouleversements, sans avoir peur, sans paniquer, mais aussi sans haine, sans colère. Nous devrions pouvoir aider à ce que l'humanité vive ces changements avec le cœur le plus ouvert, avec de l'attention les uns aux autres. En tout cas, il faudrait que nous le fassions. Alors, plus concrètement, plus modestement, peut-être dans nos paroisses, il me semble que la fraternité qu'il peut y avoir et qu'il faut, à mon avis, augmenter dans la vie des chrétiens, doit nous permettre de faire face à ces bouleversements du monde. Vous voyez, en nous aidant, nous entraidant, nous soutenant, nous donnant l'énergie pour renoncer à certains comportements, pour faire attention dans telle ou telle consommation ou pour imaginer des manières nouvelles de vivre qui soient moins dévoreuses d'énergie, moins coûteuses en carbone, etc., etc.
Autre grande question qui a été abordée, la lutte contre la pédophilie. Des décisions ont été prises, retisser du lien avec les victimes, également la possibilité de recevoir une somme d'argent. Ce sont certaines victimes qui vous ont encouragé à prendre cette direction.
Les personnes victimes, elles ont beaucoup insisté sur le fait que quand quelqu'un est agressé par un prêtre, non seulement il subit le traumatisme que tout enfant ou tout jeune subit quand un adulte intervient dans son développement psychologique, affectif et sexuel, mais en plus, il se trouve bouleversé dans sa relation à Dieu, donc il se trouve bouleversé dans le tréfonds de son âme. Et donc, il y a longtemps que les victimes nous demandent d'être conscients de cela. Donc le processus que nous proposons, qui consiste à ce que chaque évêque reprenne contact avec les personnes victimes qui lui ont déjà parlé, pour bien manifester qu'il reconnaît qu'elles sont victimes d'un prêtre, mais aussi de tout un climat ecclésial et social, et pour proposer donc effectivement une somme d'argent pour marquer concrètement que nous reconnaissons cette double cause de la souffrance et le retentissement particulier de cette souffrance dans l'âme des personnes. Nous espérons que ce geste pourra être bien reçu, être bénéfique pour les personnes victimes et leur permettre, nous permettre, d'approfondir la relation avec elle. En tout cas, c'est une manière de manifester que nous souhaitons poursuivre cette relation.
Cette invitation à renouer une relation, mais toutes les victimes le souhaitent-elles? Il y en a qui se sont éloignées de façon radicale de l'Église.
C'est clair, et qui ne sont même pas prêtes à raconter ce qu'elles ont vécu, parce que raconter ce qu'on a subi, ça n'est pas toujours apaisant, parce que c'est le revivre et que ça peut être troublant. Donc moi, je comprends que certains ne veuillent pas le faire. Et surtout, nous sommes, nous évêques, très reconnaissants à celles et ceux qui racontent, qui parlent, parce que tout en nous mettant devant ce qui s'est passé, en nous obligeant à reconnaître non seulement les fautes d'un prêtre, mais parfois des dysfonctionnements des autorités de l'Église, eh bien, ils nous aident à comprendre ce qui s'est passé et par conséquent, ils nous rendent possible d'agir pour que ça ne se reproduise plus.
Il reste encore beaucoup à faire, mais des pas importants ont été accomplis. Comment qualifieriez-vous cette phase actuelle?
On prend conscience de leurs mesures. On attend évidemment le printemps 2021, le rapport de la commission confié à M. Sauvé pour espérer avoir une espèce de vue d'ensemble. Et déjà, quand même, nous comprenons la profondeur de ces drames. Et je pense que nous avons maintenant un certain nombre de moyens d'action qu'il faut qu'on continue à préciser. Nous avons un grand travail à poursuivre en matière de prévention. Il y a déjà beaucoup qui se fait, mais il faut certainement améliorer encore un certain nombre d'outils. Et puis, un chantier très délicat, mais qui est ouvert, c'est celui de l'accompagnement du suivi des prêtres coupables. S'il fallait réduire tout ça à l'état laïque, comme certains le prônent, quel ministère est possible? Comment leur permettre de vivre alors qu'ils ne peuvent plus exercer le ministère? Comment les aider à prendre conscience de ce qu'ils ont fait? Parfois peut-être prendre conscience d'une pathologie qu'ils portent et quelle espérance est-ce qu'on peut leur donner? Je crois qu'il y a là, nous avons un travail à faire de justice, mais aussi de miséricorde.
L'Assemblée a-t-elle pris la mesure de ce drame? A-t-elle pleuré en écoutant les victimes de ces larmes qui convertissent les cœurs?
D'étape en étape, d'Assemblée en Assemblée, nous vibrons davantage avec ce que les victimes portent. Et en tout cas, pour ma part, avec les évêques qui participent au groupe de travail que nous avons en commun avec les religieux et religieuses de France, dans lesquels nous travaillons avec des personnes victimes. Je peux vous dire que ce qui est impressionnant aussi, c'est le travail que font ces personnes victimes et qu'elles nous aident à faire. Et le climat qui s'est créé entre nous s'est beaucoup transformé. J'espère que nous pourrons continuer. Voilà, il faut mériter leur confiance. Ce n'est pas toujours facile parce que rien de ce que nous faisons ne peut être complètement à la hauteur. Mais nous espérons vraiment humblement travailler à cette confiance. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants à ces personnes pour l'aide qu'elles nous apportent.